Bienvenue dans l'EM où nous entamons une première série d'émissions avec la Mutualité Française de Bretagne. Il sera question de la prévention des chutes, mais plus largement, on évoquera la question du troisième âge. Alors pour cela, on recevra plusieurs professions et corps de métier de l'accompagnement au quotidien. Nous recevrons une ergothérapeute, une nutritionniste et enfin, on abordera la question de l'activité physique. Et aujourd'hui, nous serons avec Justine Guiriac, ergothérapeute, où nous évoquerons la question des aménagements au domicile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous prenons rendez-vous avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité Française de Bretagne, qui nous parle des enjeux autour de la prévention des chutes. Nous sommes avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité Française de Bretagne. Nous allons réaliser ensemble une série d'émissions. Quels vont être le sujet de ces émissions?
Alors, c'est celui du maintien de l'autonomie des personnes âgées et de la prévention des chutes. Donc, pour situer un petit peu la Mutualité Française Bretagne, en fait, elle fédère plus de 160 mutuelles. Et en fait, ça représente un Breton sur deux. Donc, elle milite pour le maintien d'une protection sociale et solidaire, mais aussi sur l'accès à la santé pour tous. Donc on a des actions de prévention un petit peu partout sur le territoire. Le but, c'est vraiment de rendre les Bretons acteurs de leur santé en adoptant des comportements d'amélioration et de protection de leur santé.
Comment et pourquoi les Mutualités Françaises de Bretagne ont-elles décidé d'investir cette question des chutes?
Alors, pour donner quelques chiffres, en 2030, il y aura un Breton sur trois qui aura plus de 60 ans ou plus, contre 1 sur 4 en 2008. Donc le vieillissement, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir. On sait également que tout ce qui est chute chez les sujets âgés, c'est une question qui est fréquente, vraiment quelque chose qui arrive assez souvent, sachant que une personne sur trois de plus de 65 ans, va faire une chute au cours de l'année. Et puis il y a aussi les conséquences des chutes en fait qui peuvent être physiques, psychologiques ou sociales, plus ou moins graves en fonction de la personne. Et qui peut avoir des répercussions sur l'entourage. Donc, on peut dire que cette chute, elle est multifactorielle. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on peut agir sur certains facteurs, notamment sur tout ce qui est l'aménagement. Voilà, on ne pense pas forcément, mais c'est vrai qu'un aménagement de la pièce à vivre peut être très important. Tout ce qui est aussi alimentation, faire des bilans de santé. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la prévention, c'est pour éviter ces chutes des personnes âgées.
Alors nous allons faire une série d'émissions avec les Mutualités Françaises de Bretagne. Au nombre de trois, quels vont être les axes de prévention que l'on va aborder dans ces émissions?
Alors, autour de ces trois émissions, en fait, on va aborder différentes thématiques, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement du logement. Voilà, comment aussi bien s'alimenter, c'est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup de personnes âgées sont dénutries. Or, en fait, il y a une nutrition qui est très spécifique à cet âge-là. Et après, on va parler aussi de l'activité physique, donc activité physique adaptée à son âge. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on ne peut pas bouger. Bien au contraire, il y a des choses qui sont très adaptées au quotidien et c'est très important de rester en mouvement.
On était avec Élodie Brenne de la Mutualité Française de Bretagne qui était avec nous par téléphone. Alors histoire de se mettre dans la thématique de manière progressive, on se plonge dans le quotidien d'une visite d'aide à domicile au travers une scénette proposée par la Mutualité Française de Bretagne.
On peut entrer ?
Oh, c'est mon aide à domicile, une vraie perle. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle.
Vous êtes trop gentille. Bonjour mademoiselle.
Bonjour madame.
Oh, je me sens responsable. Déjà que vous êtes tombée quand j'ai lavé devant l'évier. Maintenant, je serre les escaliers et paf. Ah, vraiment, je m'en veux.
Mais c'est moi qui te l'avais demandé. J'adore l'odeur de la cire. Ça me rappelle quand j'étais petite.
On devrait poser des bandes antidérapantes dans la baignoire aussi.
Oh là là, je n'avais qu'à faire attention. On va pas faire des frais pour ça.
Ça ne suffit pas. Vous n'avez plus 20 ans. D'ailleurs, on va jeter aussi vos vieilles mules. Elles, vous ne pouvez pas marcher avec ça.
Ah ça, non, non et non, certainement pas. C'est un cadeau de mon mari. Elles sont encore bien bonnes pour traîner à la maison.
Non, elles ne tiennent pas le pied.
Oh, mais enfin, ça suffit. Tu n'es quand même pas venue pour me parler de mes pieds.
Oh, vous m'avez fait tellement peur. Vous avez vu le médecin? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Tout va bien, je rentre demain.
Je vais vous faire quelques courses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Oh, comme d'habitude, je te remercie.
Ben justement, on devrait changer les habitudes. Je trouve que vous ne mangez pas beaucoup, pas bien équilibré, pas assez diététique.
Diététique? J'ai vécu toute ma vie sans diététique, c'est pas mon âge que je vais m'y mettre.
Justement, si, j'ai lu quelque chose là-dessus. Il vous faut davantage de laitage pour les os, du calcium et puis...
Des oméga 3, des oméga 6, oui, oui. On ne va quand même pas embêter ma petite voisine avec nos histoires de régime. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait qu'un chagrin d'amour qui m'aurait coupé l'appétit. Maintenant, j'ai plus d'appétit. Quant à l'amour...
Dites pas ça. Moi, je suis là. Et votre fille, elle vous aime aussi, vous savez.
Et mon gendre, tu l'oublies, celui-là. Il m'adore.
En tout cas, il était très inquiet au téléphone.
Oh, pourquoi? Tu les as appelés?
Bien sûr, ils rentrent pour vous voir.
Tu n'aurais pas dû, ça va gâcher leurs vacances.
Ça aurait pu être grave.
Mais ça ne l'est pas. Allez, sauve-toi. Phil, je sais que tu as beaucoup à faire. Je te remercie.
Ouh, quel caractère de cochon, vraiment. Bon, j'y vais. Ah, j'oubliais, je vous ai amené des chocolats, ceux que vous aimez.
Oh, merci Claudine.
De rien. Reposez-vous bien. À lundi.
De retour en direct dans l'EM où nous sommes avec Justine Guiriac, ergothérapeute pour le dispositif VASI. Bonjour.
Bonjour.
Alors dans ce qu'on a entendu là, il y a des choses qui vous ont rappelé votre quotidien un peu ou...
Bah forcément, oui, ça fait quelques tilts.
Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, chacun le sait plus ou moins, on en a déjà entendu vaguement parler, mais peut-être est-ce bon de le rappeler, c'est quoi ergothérapeute, c'est quoi comme métier?
Alors mon métier d'ergothérapeute, il est lié à tout ce que peut entraîner au quotidien des problèmes de santé, des accidents ou l'avancée en âge aussi. Comment en fait accompagner une personne pour qu'elle continue à vivre ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a besoin de faire avec ses difficultés qui peuvent apparaître liées à différents soucis.
Vous êtes plutôt spécialisée du coup dans l'accompagnement des personnes âgées?
Pas forcément, en fait notre métier il va du plus jeune âge, d'un nourrisson à une personne âgée, toute personne finalement qui aurait besoin d'un accompagnement, soit de la rééducation, soit de la réadaptation, ou de la réinsertion dans sa vie de tous les jours liée à voilà, une maladie, un handicap, un accident, etc.
Pouvez-vous nous présenter votre structure VASI? Qu'est-ce que c'est?
Alors du coup, effectivement, moi en tant qu'ergothérapeute, je suis plus spécialisée quand même aujourd'hui sur l'accompagnement des retraités finistériens, parce que VASI, c'est un dispositif de prévention pour tous les retraités du Finistère, et on organise en fait des conférences, des ateliers, ou des accompagnants individuels aussi, sur toutes les thématiques du bien vieillir, comme on appelle ça aujourd'hui en France, notamment la prévention des chutes.
Alors ouais, sur le sujet de la prévention des chutes, de votre expérience, qu'est-ce qui cause principalement les chutes des personnes âgées au domicile?
Bah, comme disait Elodie Brenet, c'est vraiment multifactoriel, ça dépend de chacun, mais il y a des grandes lignes qui se recoupent, il y a les facteurs, tout ce qu'on appelle environnementaux, donc là... Donc, l'ergothérapeute est plutôt spécialiste, tout ce qui va être attrait au domicile, à l'environnement autour du domicile aussi. Donc là, par exemple, on pense directement à la baignoire, à la salle de bain, aux escaliers, au tapis. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Hein. C'est pas que ces petites choses assez classiques. Après, il y a tous les facteurs plutôt internes à la personne. Il y a son état de santé global aussi. Et tout ce qui est son état psychologique qui peut jouer également.
Au quotidien, à quel type de situation êtes-vous confronté?
Typiquement, des personnes qui... nous, on travaille en prévention, donc on est plutôt avec des personnes qui se posent la question de leur projet voilà, en tant que retraité. Comment ils se projettent dans les 10-15 ans à venir? Est-ce que leur maison d'aujourd'hui, c'est celle sur laquelle ils se projettent demain? Si oui, est-ce que ça va nécessiter des petites adaptations? Est-ce que, effectivement, la chambre à l'étage... elle est toujours pratique? Est-ce qu'on peut ajouter un point d'eau peut-être au rez-de-chaussée, envisager sa vie voilà, sur un seul niveau pour se simplifier en fait, hein, à la tâche? Ça ne veut pas dire que les escaliers c'est mauvais. L'activité physique, le fait de bouger toujours au quotidien, c'est vraiment préconisé également. Mais c'est pour éviter de se retrouver dans des situations bloquantes, en fait, liées à des soucis de santé, parce que ça peut arriver. Et voilà, ça, c'est les situations vraiment les plus classiques. Mais le questionnement de son domicile, c'est aussi tout ce qui va autour, ses habitudes de vie. Est-ce que je trouve qu'être à 10 km du bourg, c'est trop loin aussi pour moi, parce que la conduite me semble plus forcément à l'aise. Donc sur Vas-y, on accompagne ces questions de mobilité aussi. C'est tout ce qui fait la vie quotidienne de la personne qui va être
justement
encouragée.
Sur les mobilités, comment ça se passe? Parce qu'on sait que le domicile en général, surtout en milieu rural, c'est des vieilles maisons, loin du bourg. Comment on peut faire pour accompagner justement ces questions de mobilité?
Il y a des initiatives locales, hein, des CCAS notamment, pour de l'accompagnement à la mobilité, de l'aide entre bénévoles, des choses comme ça. Mais nous, sur Vas-y, en tout cas, ce qu'on peut proposer aux gens, c'est des séances de conduite. En fait, on travaille en binôme, ergothérapeute, moniteur d'auto-école, pour encourager les gens, parce que le permis est passé depuis pas mal de temps aussi. Et donc se dire, bah, ça peut pas faire de mal, une petite formation, une petite piqûre de rappel sur la séance de conduite, et on va sur la route du quotidien, en fait. Et tout ça, c'est gratuit, parce qu'on a des financements de la conférence des financeurs du département pour ça, tout comme les actions de prévention des chutes, les conférences qu'on anime, les ateliers, hein, parce que tous les semaines, il y a des personnes qui se mobilisent et qui participent à des ateliers d'activité physique adaptés, du coup, pour entretenir leur forme. Et en complément, nous, on vient apporter toutes les questions environnementales pour les aider à se projeter sur peut-être la réflexion de leur logement, quoi.
Il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que finalement, on imagine le métier d'ergothérapeute comme un métier peut-être presque d'accompagnement, peut-être centré sur le physique, sur le mouvement, voilà, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait.
Ouais, notre métier, il est à la frontière entre le côté plutôt médical, vraiment le physique, le fait de continuer à se bouger, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, toutes les activités, hein, du quotidien, et toute la notion sociale, la vie des personnes, donc à l'extérieur d'un hôpital, puisqu'on imagine plutôt des professionnels de santé dans l'hôpital. Et nous, on va plutôt faire le lien entre ces deux mondes-là, entre guillemets, la maison et le monde de la santé.
D'accord.
pour
adapter. Donc vous travaillez aussi avec les assistants sociaux du territoire.
Bien sûr, ouais. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire sans... Là, pour revenir à des questions bien concrètes, quoi. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sans tout chambouler son intérieur? Ou les petits réflexes, quoi, là, qu'on peut prendre au quotidien? Il y a eu le cas des chaussons, par exemple, qui a été évoqué dans la scénette. C'est un truc qui arrive régulièrement, ça? Le coup des chaussons?
Oui, c'est comme tout à chacun. On trouve une paire de chaussons qui va être jolie. Et puis, c'est aussi important pour soi de se sentir bien, de porter des choses qui nous plaisent aussi. Mais pour autant, quand le fait de marcher, se déplacer est un peu moins facile, qu'on se sent moins stable, mais en fait, la chaussure, elle a besoin de s'adapter aussi à cette condition-là. Et finalement, peut-être que les mules, les sandales ou les claquettes qui tiennent moins bien dans le pied ne seront pas forcément les plus aidantes. Et donc, on peut aussi conseiller les personnes sur le choix de modèle, des fois des pieds douloureux aussi. C'est pas toujours simple de se chausser.
Parce qu'entre les chaussons et les claquettes, là, on a à peu près fait l'éventail de tout ce qui était plus ou moins mettable à la maison. Du coup, c'est quoi l'alternative?
Plutôt des chaussures ou des chaussons d'intérieur qui vont plutôt tenir le pied fermé, en fait, à l'arrière.
Alors, là, c'était pour les petites choses, mais dans la maison, qu'est-ce qu'on peut faire si un peu plus de travaux sont possibles?
Déjà, avant de faire du travail, c'est réfléchir sur son domicile tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas des premières réflexions sur le tri, en fait, à faire dans la maison, où on sait qu'au fur et à mesure des années, on en accumule pas mal de choses aussi, et les lieux de passage peuvent être assez encombrés. On rajoute de l'électroménager avec des fils électriques un petit peu partout, etc. Et déjà, une première chose serait une question de tri pour laisser plus libre les espaces de circulation, remettre à hauteur ce qu'on va utiliser le plus couramment, et peut-être moins accessible des choses qui sont utilisées que ponctuellement dans l'année. C'est les premières choses. Et puis après, ça peut être de réfléchir à l'éclairage aussi dans son domicile, notamment pour les moments où on a besoin de se lever la nuit. Ça peut être intéressant, ou en début de fin de journée, notamment l'hiver. On sait que les cages d'escalier sont rarement bien éclairées. Les extérieurs aussi, quand on veut sortir le journal, des choses comme ça. Donc, ça dépend de chacun. C'est pour ça qu'en ergothérapeute, on commence toujours par un premier entretien pour vraiment comprendre comment la personne fonctionne, comment se déroule presque une journée, une semaine pour elle, quoi, pour partir de là. Et puis après, les questions qui reviennent souvent, c'est sur la chambre, les WC, la salle de bain, où là, on imagine tout de suite des gros travaux, de passer de la baignoire à la douche, mais c'est pas forcément nécessaire. Certains aiment bien leur baignoire et je les comprends aussi. Donc pourquoi pas rajouter peut-être des petites aides techniques qui viennent sécuriser ce qui existe déjà. On pense en premier lieu au bar hein, pour se tenir, s'équilibrer quand on passe les jambes, par exemple, pour entrer dans la baignoire. Mais il y a des petites choses moins connues comme les planches de bain, par exemple, qui viennent se clipser dessus pour pouvoir enjamber la baignoire en étant assis, tout simplement, et se sentir moins en situation de déséquilibre.
Quand vous parlez d'un premier rendez-vous, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Par exemple, ça se passe comment l'accompagnement sur le court, moyen, long terme? Combien de temps ça dure?
Ça va dépendre des besoins de chacun, mais c'est vrai que par exemple, si on prend le bilan, le diagnostic bien chez moi, qui est financé par la GERCARCO, c'est toujours un premier rendez-vous qui va durer une heure et demie pour faire le tour vraiment de la maison, de ses extérieurs, tous les étages, toutes les pièces. Prendre le temps de comprendre le fonctionnement quotidien de la personne et s'il y a besoin, on peut revenir après pour aider la personne aussi à découvrir comment utiliser peut-être les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place chez elle en fait. Et puis parfois, il faut aussi réapprendre à faire autrement et l'encourager à continuer.
Ouais, vraiment ce métier d'interface en fait quoi. Des aménagements qui demandent un peu de travaux, est-ce que cela se fait parfois avec un peu de réticence? Comment ça se passe justement là? Est-ce qu'il y a des méthodes de négociation?
Bah forcément, c'est pas simple de changer ses habitudes. On est tous pareils, on a des routines et on y tient aussi. Donc c'est difficile de faire un choix de changement, mais souvent c'est une mûre réflexion aussi, et c'est plus facile toujours de le faire en prévention qu'en situation d'urgence, ça c'est sûr. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est souvent d'accompagner la personne dans la réflexion, en fait, l'aider à lui poser les bonnes questions pour que petit à petit en fait, elle puisse décider d'elle-même, c'est sûr, et faire les choix en pleine conscience, en fait, en pleine connaissance de cause.
Et quelle est la place des familles, des aidants, des accompagnants dans ce diagnostic en fait?
Souvent ils sont comme étant un tiers un petit peu extérieur, mais un petit peu dedans aussi, un peu plus au fait de ce qui pourrait être ce qui leur paraîtrait le plus adapté pour leurs proches. Et pour un temps, leurs proches n'est pas toujours prêt à ça aussi. Donc il faut les aider à accepter aussi que leur choix n'est pas toujours celui de leurs proches, etc. Accompagner cet ensemble, aidant, aider pour qu'ils avancent dans une direction commune de façon apaisée aussi.
Il y a quelque chose qui peut simplifier aussi la vie dans ce genre de contexte, des fois où c'est peut-être un peu, où les avis sont un peu divergents, c'est qu'il y a des aides.
Tout à fait. Il peut y avoir des aides de l'État, de l'ANA, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et tout ça, ça va dépendre en fait de chacun, de ses revenus aussi forcément.
Et en même temps, s'il n'y a pas besoin de faire de travaux, voilà, c'est bon.
Voilà, ça y est, c'est les aides financières, hein, du coup, elles sont vraiment pour des travaux sur le bâti, mais ce n'est pas forcément la majorité des situations non plus.
Alors justement, quelqu'un qui serait intéressé par justement un métier comme le vôtre, quoi, qui sentirait qu'il en a peut-être besoin dans ce quotidien, comment la personne doit s'y prendre?
C'est vrai que c'est pas forcément simple d'avoir toujours un accès à l'ergothérapie. Je pense que le premier interlocuteur vers qui peut se tourner une personne qui a des questions sur sa vie de tous les jours, son logement, ce serait peut-être le CLIC, parce qu'il y a des CLIC, il y en a partout ici, notamment en France
et dans
le Finistère, ouais, tout à fait. C'est des premières portes d'entrée d'information.
Le CLIC, si on peut rappeler.
C'est le centre local d'information et de coordination. Donc en fait, c'est des travailleurs sociaux qui accueillent tous les retraités finistériens, notamment ici, pour répondre à leurs questions sur leurs droits, les aides dont ils peuvent bénéficier, pour continuer en fait à vivre chez eux la plupart du temps, ou des fois effectivement envisager un autre projet de vie. Mais je pense que c'est la première porte d'entrée, et après, avec ces travailleurs sociaux du CLIC, ils peuvent être dirigés vers un ergothérapeute, leur donner les conseils, les contacts, s'il y a besoin, etc.
Donc le CLIC, l'ANA, et puis éventuellement au quotidien pour les petites choses, comment ça peut se passer?
Alors du coup, je vais en parler tout à l'heure, il peut y avoir le financement du diagnostic bien chez moi pour toutes les personnes de plus de 75 ans. Donc c'est dommage, c'est un petit peu tard, 75 ans, quand on parle de prévention, on se dit ben, le plus tôt c'est le mieux. Mais pour l'instant, il y a ce financement de ce diagnostic-là. Il reste 15 € à la charge de la personne uniquement, mais on n'est pas encore une profession qui est financée comme par la Sécurité sociale spontanément. Donc peut-être que ça va venir, mais ça simplifierait l'accès. Pour l'instant, il vaut mieux passer par le clic pour savoir comment avoir accès à l'ergothérapie.
Eh bien, merci beaucoup, Justine. On a fait le tour de la question ?
Je pense que c'est pas mal.
C'est pas trop mal ?
Ouais.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.
Merci.
L'EM. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Blows where oh,